After Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Mylène Courcy, bonjour.
Bonjour Christophe et bonne année.
Nous nous sommes régalés tout le week-end de galettes des rois à la frangipane notamment. Vous avez été roi, vous avez été reine.
J'ai pas été, j'ai donné ma reine à ma petite fille qui était très vexée. Donc
très joli.
Voilà.
C'était une jolie coutume qui clôt le temps de Noël. Adieu sapins, crèches et santons, guirlandes et papillotes. Les rois mages sont passés. Alors les rois mages, parlons-en ou plutôt regardons-les. Où ? Bah, au musée évidemment. C'est en effet un thème pictural très populaire à partir du 3e siècle. Notamment sculpté sur des sarcophages retrouvés dans les catacombes de Priscille à Rome. L'épisode biblique n'apparaît, vous l'avez remarqué, que dans l'évangile de Matthieu. On aurait pu penser que Luc en parle, puisqu'il est l'évangéliste de la nativité, probablement informé par Marie elle-même. Eh ben non, c'est Matthieu uniquement qui raconte la scène et les visites à Hérode et la splendeur de cette adoration aussi somptueuse que simple. Alors assez rapidement, le sujet des mages va s'imposer. Au 8e siècle, on les identifie. Et ils sont même nommés Balthazar, Melchior et Gaspard. Une interprétation politique va encourager l'iconographie. Il s'agissait de montrer les trois pouvoirs de la science, de la politique et de l'argent qui viennent s'agenouiller devant l'enfant Dieu. Il y a aussi l'idée de trois rois de tout pays avec Balthazar, l'Africain, précisément l'Éthiopien. C'est donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique qui viennent se prosterner. Voilà de façon plus que rapide l'apparition des mages dans notre culture. Ils sont enterrés, vous le savez, à Cologne, où les reliques sont vénérées. Et le trésor des mages, lui, est au mont Athos. Et lorsque l'on transporte le trésor des mages un peu partout dans le monde, c'est arrivé notamment en Russie en 2014, je crois, eh bien, il y a eu des guérisons. Donc c'est vraiment une légende, ou en tout cas populaire, qui donne énormément de vénération. Donc c'est toujours important de regarder. Alors, sur cet Origène, vous le savez, qui dans ses homélies sur la Genèse a été le premier qui fixait le nombre de trois en se fondant sur les trois présents, or, encens et myrrhe. Et il établit une relation symbolique avec les trois personnages Abimélec, Okozat et Ficol qui rendent visite à Isaac dans l'épisode de la réconciliation du livre de la Genèse. Certains disent que, notamment c'est une tradition perse, que les mages étaient envoyés par le roi Pir Sabour accompagné de 3000 cavaliers et de 5000 fantassins, vous vous rendez compte? Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, sinon d'écouter Saint Matthieu qui nous raconte encore une fois les dialogues avec Hérode et la jalousie du roi Hérode pour, par rapport au Messie qui vient de naître. Mélina de Courcy, vous enseignez l'histoire de l'art au Collège des Bernardins à Paris, vous animez un MOOC, c'est ça?
J'ai animé un MOOC, oui.
Vous allez en refaire un ?
J'espère.
Oui, j'espère aussi. Vous publiez régulièrement dans les hors-séries du Figaro et vous allez nous parler du tableau de l'Épiphanie qui vous a le plus marqué et vous allez nous dire pourquoi.
Bien sûr, avec une joie immense, car par ce froid polaire, j'aurais pu de bon matin rencontrer le train, ce matin, des trois grands rois. Qui partait en voyage. Et c'était un voyage de traverser Paris ce matin sous la neige, oui. Christophe. Alors, celui qui m'est venu tout de suite dans le cœur pour cette émission d'aujourd'hui sur les rois mages, c'est un polyptyque de Gentile da Fabriano de 1423 qui est conservé au musée des Offices.
Et là, je vous coupe tout de suite parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que si, à partir du 3e siècle, on va voir en effet des représentations des rois mages sur les sarcophages, en revanche, c'est vraiment la Renaissance italienne qui va développer le thème.
Hein. Absolument, c'est un thème très populaire, vous l'avez cité, Tertullien, Origène, le reprennent après Matthieu. Personne ne sait qui sont ces mages, vous le savez. Personne ne sait s'ils sont 3, 10 ou 25 ou 3000. Mais ça n'empêche qu'il y a une tradition qui perdure. Et dans ce retable tout à fait extraordinaire de Gentile da Fabriano, pourquoi je l'ai choisi? Premièrement, parce que c'est une œuvre totalement intacte, qui est une œuvre qui mêle architecture en bois doré, sculpté et peinture. C'est une commande de Palastrozzi, grand financier de Florence.
Tout de suite, elle se trouve où cette œuvre ?
Elle se trouve aujourd'hui au musée des Offices, mais d'accord. Elle a été commandée pour la chapelle de l'église de la Trinité de Florence par Palastrozzi. Et c'est une œuvre précieuse. Pourquoi ? Parce que c'est certes une âme de bois, mais qui est recouverte d'or et d'argent. avant d'être traité à la tempéra. Donc, de la part de Pallas Rossi, une offrande très importante en argent pour faire réaliser ce grand panneau qui est d'une taille tout à fait importante, 3 mètres sur 2,80 m. C'est très, très important. Voilà. Et donc, ce bois doré dessine une architecture avec trois arcades et au centre de laquelle vous avez la scène principale des trois mages qui se prosternent devant l'enfant Jésus. Mais avant d'arriver à détailler cette partie-là du tableau, je voudrais signaler que dans cette œuvre, ce qui est assez rare, nous avons sous chacune des trois arcades les trois temps qui précèdent au moment où les mages enfin rencontrent l'enfant. Et donc, vous avez à gauche de la petite arcade les mages qui voient l'étoile. Puisque saint Matthieu nous dit « Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » C'est le premier grand mystère. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Déjà ça, dans la même phrase, il y a deux paradoxes. Il y a un paradoxe, deux choses qui s'affrontent. Un roi des Juifs qui vient de naître, il se présente devant Hérode. Qui est Hérode ?
Le roi des Juifs.
C'est lui, le roi des Juifs. Donc c'est extraordinaire de démarrer comme ça. Donc tout est extraordinaire dans ce passage, de toute façon. Puis, sous la deuxième arcade au centre, nous voyons le grand cortège des mages qui se dirigent vers Jérusalem. Question, pourquoi est-ce que l'étoile ne les a pas amenés directement à Bethléem ?
Ben oui.
Question. Bien, parce que justement, il fallait que Hérode soit confronté à cette annonce du roi des Juifs. Et que donc, Hérode convoque les mages en secret, mais avant, ils convoquent tout le peuple, grands prêtres et scribes, pour savoir qui est ce roi des Juifs, où devait-il naître, quand devait-il naître, d'après les textes.
Mais il y a de quoi paniquer de la part d'Hérode.
Et ensuite, nous voyons les mages qui vont à Bethléem, puisque Hérode lui-même, ayant convoqué les scribes et les prêtres, leur indique qu'il est à Bethléem, mais il leur dit en secret. Pourquoi en secret ? Parce qu'il leur dit « Surtout, dites-moi bien !» Avec précision, où est cet enfant pour que j'aille moi aussi me prosterner ?
Tu parles, Charles.
Voilà. Donc c'est intéressant dans ce grand retable de Giannino da Fabriano de 1423 que nous ayons le comme un peu un rébus, une bande dessinée, la mémoire de ce qui s'est passé avant. Mais le plus extraordinaire dans ce retable, c'est évidemment cet immense cortège où sont mêlés chevaux de face et de dos, animaux exotiques, pour souligner l'aspect oriental. Ils sont venus d'Orient, mais là aussi, c'est tordant. Ils sont venus d'Orient. Où sommes-nous quand nous sommes à Bethléem, Christophe ?
Au Moyen-Orient.
Nous sommes au Moyen-Orient, donc ça veut dire qu'ils viennent de l'Est,
oui.
Plus de l'Est. Bon, et là, ils suivent cette étoile et ils arrivent avec leurs chevaux. Il y a deux singes, il y a un léopard, il y a des oiseaux exotiques. C'est tout à fait extraordinaire. Une population dans un cortège compressé, chamarré, avec des coiffes de tout ordre, des couronnes, des turbans, des bonnets, c'est doré, c'est chatoyant, c'est de toutes les couleurs. Et ce cortège nous amène devant les trois personnages principaux, les trois rois, les trois mages, personne ne sait s'ils sont rois évidemment, on pense plutôt que ce sont des savants, des astronomes, aussi bien astrologues qu'astronomes
tout
d'ailleurs. Et ils sont eux, tout à fait de manière extraordinaire, vêtus comme des princes des mille et une nuits, avec des couronnes et des turbans.
C'est pour faire le contraste avec la pauvreté de la crèche, vous pensez ?
C'est pour faire le contraste avec la pauvreté du Christ et de la crèche, mais aussi pour montrer qu'ils sont venus pour effectuer un geste sacré. Et donc, c'est une tenue approprié, je dirais. C'est-à-dire quand on s'approche du sacré, on n'y va pas comme quand on va à la plage, voyez. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre du respect.
Et déjà de la liturgie.
Oui. Voilà, ce geste sacré. Et donc là, nous voyons ces trois mages. Vous avez évoqué ce qu'ils pouvaient représenter. Certains disent aussi que ce sont les trois âges de la vie.
Oui.
Donc le plus âgé est celui qui se prosterne en premier.
Toujours.
Celui d'âge moyen est à genoux mais pas prosterné. Et il a encore sa couronne sur la tête, alors que le plus âgé a déposé sa couronne. Vous savez pourquoi, Christophe ?
Mais non.
Parce que nul n'est roi devant Dieu. Parce que le roi des Juifs est le roi de l'univers. Et que ces mages, fort riches, fort instruits, fort savants, reconnaissent la royauté du Christ à cet instant précis. Et je vais vous donner un autre détail qui nous le fait lire aussi dans le tableau. Et donc le premier s'agenouille, il est grisonnant et chauve, sa barbe grise pend sur sa tunique, et il embrasse le pied de l'enfant Dieu en recevant de lui une bénédiction sur son front. On reviendra sur ce geste. Le second est agenouillé et il est en train de déposer sa couronne, tandis que le troisième est debout, beaucoup plus jeune.
C'est l'Africain.
Et voilà.
Melchior.
Et Melchior, celui... Non, mais l'Africain, c'est Balthazar.
Balthazar, pardon.
Et Melchior, c'est, on dit l'Européen, bon. Et celui-ci, c'est très amusant. Un palefrenier est à plat ventre, en train de lui retirer ses étriers. C'est très amusant. Et donc, c'est un petit détail qui montre qu'il ne se présente pas comme un riche cavalier. Il se présente comme un homme simple venant adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Voilà. Alors, dans cette composition, nous avons à gauche Marie tenant l'enfant Jésus. Vous avez remarqué que Joseph n'est pas mentionné dans l'évangile de Matthieu. Il est dit « Alors Hérode convoqua les mages et ensuite il cherche l'enfant et sa mère ». Il ne cherche pas Joseph. Or, dans la représentation dont je vous parle, nous avons le trio Joseph debout, Marie assise, portant Jésus sur ses genoux. Et Joseph debout est placé exactement au-dessus de Jésus, Marie est légèrement en retrait. Et au-dessus de Joseph, qu'est-ce que nous voyons ? L'étoile. L'étoile de David. L'étoile qui représente en fait l'Esprit Saint. Et dans cette étoile, et esquisser le visage de Dieu le Père.
Incroyable.
Alors ça, c'est très intéressant.
Extraordinaire.
Parce que dans cette étoile où est esquissé le visage de Dieu le Père, nous avons elle est positionnée juste au-dessus de Joseph, dont il n'est pas mention dans l'Évangile, et qui est juste au-dessus du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a cette filiation d'abord de la Trinité, l'étoile qui représente l'Esprit, avec Dieu représenté à l'intérieur, au-dessus du Christ, Père, Fils, Saint-Esprit, au moment de la naissance de Jésus, et matérialiser la Trinité. Elle ne l'était pas avant. Elle est matérialisée, elle est manifestée au monde, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Joseph, lui, est dans cette verticale sous l'étoile comme Jésus ? Parce que Joseph est de la lignée de David et que c'est par sa descendance que Jésus tient sa royauté terrestre.
Alors,
donc, là, nous avons une double signification extrêmement puissante. Vous voyez,
oui.
Entre la royauté du Fils de Dieu qui est Dieu et qui fait partie de la Trinité et la royauté terrestre de Jésus manifestée par la lignée de David qui lui vient de Joseph. Voilà, c'est très fort.
C'est le peintre qui est théologien ou c'est le spectateur dans son commentaire qui le devient ?
Alors, on ne peut pas ne pas remarquer ce détail.
Ouais.
Vous savez que la peinture est faite de détails. Et je pense que Palestrozzi était un personnage éminent de la ville de Florence et qu'il a été certainement conseillé, vu que ce retable a été commandé pour une chapelle latérale de la Sainte Trinité.
Mmh.
La Sainte Trinité, là nous venons parler de la Sainte Trinité.
Ouais, c'est extraordinaire.
Voilà. Donc c'est très puissant. Et alors,
Et donc on a quelque chose de très trinitaire, parce que trois rois mages... Trois de la Sainte Famille et la Trinité.
Absolument,
qui est
c'est très juste.
Tout est trinitaire.
Et trois arcades au-dessus.
Et trois arcades.
Qui sont les trois, représentent les trois moments de la réflexion des mages avant d'arriver devant l'enfant Jésus. Alors vous savez que l'épisode des rois mages fait partie de la Nativité. En fait,
bien
dans
sûr.
La Nativité, il y a trois épisodes. La naissance de Jésus, bien sûr. Puis l'annonce aux bergers.
Mmh.
Les bergers qui représentent le peuple juif. Et les pauvres, les simples. Historiquement, les bergers souvent étaient propriétaires de leurs troupeaux. Mais à l'époque du Christ, plus tellement nécessairement et plus systématiquement, à l'époque de la naissance de Jésus. Donc, la première annonce à ceux qui sont extérieurs à la vie secrète de Marie, Joseph et Jésus, cette sainte famille tout à fait extraordinaire, qui vit ce moment extraordinaire dans le secret, dans la nuit, cachée. Cette annonce première est faite aux bergers. Les bergers sont... ceux qui sont pas si loin, mais qui sont juifs.
Et en même temps, il y a la multitude des anges qui est juste au-dessus des bergers.
Absolument.
Qui est incroyable.
Incroyable, et qui n'est pas représentée ici sur le tableau dont je vous parle. Et les rois mages, eux, représentent les païens, les non-juifs. Les non-juifs qui ont pourtant reconnu l'étoile, qui ont pourtant identifié un phénomène extraordinaire dans le ciel, une étoile plus brillante que les autres, une étoile qui n'existe pas dans la configuration du ciel, qui leur est très connue. Et donc, ils la suivent. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que, étant païens, non-juifs, ils se laissent interpeller. C'est pour ça qu'on appelle cet épisode Épiphanie, parce que c'est la manifestation de Dieu au monde entier. Et au monde entier, à travers ces trois mages, il y a derrière eux ce cortège extraordinaire et bigarré, qui sont aussi des païens.
Est-ce que dans le cortège, on reconnaît des gens de l'époque ?
Alors, c'est une bonne question, car La tradition sur ce tableau dit que Pallas Trozier et son fils ont été représentés. On les voit de face, derrière le plus jeune roi mage. Le fils porte une épée entre les jambes et Pallas Trozier nous regarde de face. Donc, c'est une œuvre extrêmement complète, complexe, riche, entière. Pas du tout abîmée, sauf que, au moment de la campagne d'Égypte, Napoléon a récupéré un élément de la prédelle. La prédelle, c'est la frise peinte en miniature sous l'élément central. Il y a à gauche la nativité, au centre la fuite en Égypte qui va suivre l'adoration des mages, et à droite la présentation de Jésus au temple qui est une copie sur ce tableau-là, et vous trouvez l'original au Louvre.
Voilà. Il faudrait peut-être les rendre, non?
Oui, c'est dans l'air du temps.
En tout cas, on va y penser. Joli thème de bon matin. Nous avons croisé les rois mages avec dans leur train de vie, évidemment, puisque le train de vie était très très important. Et ce thème qui sera repris par Bizet dans sa fameuse Arlésienne. Alors, vous nous avez parlé, Mélina de Courcy, de Pallas Trozier. Moi, j'aimerais vous parler d'un tableau qui, pour moi, emporte le morceau parmi toute cette iconographie. C'est le tableau d'Andrea Mantegna qui est exposé au musée Paul Getty à Los Angeles et qui a été réalisé entre 1495 et 1505. Il a mis 10 ans pour réaliser ce tableau qui présente non pas tout le folklore qu'il y a avec toute la foule et certains protagonistes qui seraient les mécènes du tableau, mais au contraire, nous avons les visages en gros plan alors à gauche le couple Joseph-Marie, à droite les trois visages des mages et au centre l'enfant Jésus. Et si vous croisez le tableau avec, vous savez, cette croix de Saint-André qui permet de voir le centre n'est pas l'enfant Jésus, le centre est le crâne justement du plus ancien des trois rois mages. Et le crâne, pourquoi ? Parce que il s'est décoiffé justement pour montrer son respect. Alors, c'est assez beau de voir ces gros plans sur les visages qui donnent à la fois une intimité et une force humaine particulièrement douce et singulière. Et vous savez, ma passion pour le théâtre, eh bien, lorsque l'on voit ce tableau d'Andrea Mantegna, on a l'impression qu'il parle. Et on a l'impression que l'on pourrait donner les dialogues. Et encore une fois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est l'affrontement des visages, leur complémentarité, leur douceur, leur force, leur autorité. Et en même temps, on est débarrassé de tout le folklore qu'il y a pour donner cette confrontation, cette relation d'homme, de scientifique, de mage, de roi, de vierge, de charpentier, et puis de cet enfant. Et cette confrontation donne quelque chose de tout à fait étincelant. C'est le tableau d'Andrea Mantegna qui se trouve au musée Paul Getty à Los Angeles. Je vous recommande de filer sur Internet pour aller le contempler. Mélina de Courcy, vous avez un autre tableau de l'Épiphanie.
Oui, j'avais aussi envie de vous parler d'un tableau de Botticelli qui est conservé lui aussi au musée des Offices de Florence, qui a été réalisé vers 1475, donc 50 ans plus tard que le premier de Gentile da Fabriano, et qui est tout à fait original à plusieurs titres. Premièrement, nous voyons Joseph, Marie et l'enfant en haut d'une espèce de pyramide d'escalier, dans une espèce de hutte qui tient à la fois de la ruine écroulée et de la grotte. Donc c'est très particulier, c'est très peu vu, c'est très original.
C'est l'ambiguïté entre l'étable et la grotte. Hein,
voilà, c'est ça. Et puis quand même quelques pierres, mais qui sont des murs en ruine. Voilà, alors question, pourquoi ces ruines ? Pourquoi des murs en ruine ? Eh bien parce que le nouveau temple, c'est le Christ.
Et oui.
Et le seul nouveau temple indestructible, c'est le Christ à cet instant précis. Et Botticelli crée un arrêt sur image que je trouve très moderne dans sa composition, puisque nous avons au centre ce trio de la Sainte Famille dans cette ruine qui tient à la fois avec des espèces de troncs mal équarris et le toit d'une hutte. Et en fait, on a l'impression que le temps s'arrête à cet endroit-là, alors que de chaque côté de la représentation, vous avez une perspective fuyante, à droite, avec une grande perspective atmosphérique et un fleuve et une barque, et à gauche, une ruine antique, des arcades antiques, qui sont en ruine elles aussi. Et qui signifie bien que ce soit à droite ou à gauche, ce qui est important à cet instant précis, c'est ce qu'il y a au centre, et qui est figé, qui ne bouge pas, qui ne passe pas.
Mais la
quelque
ruine...
chose d'éternel.
Mais Mélina de Courcy, la ruine antique, c'est un peu une constante dans l'art de la Renaissance.
C'est une constante, mais c'est pas forcément ruiné.
Oui.
Là, il y a des évocations d'un art antique, certes, propre à la Renaissance, mais là, c'est en ruine. C'est-à-dire que l'arc est cassé, il est brisé, il est.
Et vous y voyez un symbole.
Et c'est un symbole du monde ancien qui est renouvelé. Par cette nouvelle logique
de
l'amour.
C'est pas une question d'ode.
Ah non.
C'est vraiment une recherche symbolique.
Ah oui.
De la part de Botticelli.
Oui, parce que le moment de la nativité prolongée par l'adoration des mages, qui était la manifestation au monde entier de l'amour de Dieu pour tout homme existant sur cette terre, présent, passé et à venir, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui est éternel, indestructible et inconditionnel. Et donc, c'est le contraire de ce que est un bâtiment de pierre qui peut être ruiné par l'usure du temps. L'amour de Dieu n'est pas sujet à l'usure du temps. Donc ça, c'est la première chose intéressante. La deuxième, c'est que le cortège est séparé en deux parties, laissant voir la Vierge et Joseph et l'enfant Jésus au centre, et qu'il n'y a plus du tout d'anecdotes. Il n'y a plus de chameaux, il n'y a plus de singes, ni de léopards, il n'y a plus de chiens, ni de chevaux. Ni
oui.
C'est simplement ce cortège d'êtres humains, comme vous le signaliez tout à l'heure pour Mantegna. Et c'est aussi la marque sur le plan de l'histoire de l'art, du passage à la Renaissance, c'est-à-dire que Gentile da Fabriano était encore attaché au gothique international, avec tout le pittoresque et la ligne sinueuse des personnages élégants, très richement vêtu du gothique international, alors que là, avec Botticelli, nous avons basculé dans la Renaissance et nous avons des personnages parfaitement insérés dans l'espace, avec une réflexion spatiale tout à fait intéressante et juste sur leur posture, leurs attitudes, les regards qu'ils échangent, le mouvement qui les habite et les sentiments. Donc quelque chose de complètement nouveau. Nous avons bien sûr le premier, le plus âgé, tête nue, qui se baisse. Vous savez qu'ils offrent trois présents, l'or, la myrrhe et l'encens. L'or, c'est, selon les symboles attribués habituellement,
oui,
c'est
l'or.
La chair des dieux, la voilà. Divinité. La myrrhe, c'est pour la mort et la résurrection du Christ. Et l'encens, c'est pour le fait que le Christ est prêtre et que c'est sa dimension sacerdotale.
Merci Mélina de Courcy, c'est vraiment, on ne sait pas si c'est le peintre qui est théologien, Gentile di Fabriano, Mantegna ou Botticelli, ou le spectateur dans son commentaire, en tout cas on pourra vous retrouver au Collège des Bernardins pour vos cours sur l'histoire de l'art, Mélina de Courcy, merci. Merci aussi à Cédric Cobaff, Philippe Malpeu, Jean-Paul Lérine, François Dieudonné et Camille Meyer pour la réussite technique de ce Culture Club. Demain, je recevrai Jean-Marie Roire de l'Académie française pour son nouveau roman La maîtresse italienne qui paraît cette semaine chez Gallimard. Couvrons-nous, le froid polaire nous arrive. Je vous embrasse.